Pourquoi est-ce équitable? Sur quoi va reposer la réussite scolaire de l'individu, de l'élève? Pas sur son origine sociale, pas sur la fortune de ses parents, pas sur son réseau de relations, sur quoi alors?
Bah, sur lui-même, sur sa...
Oui, merci de...
Sur sa capacité intellectuelle.
Ses ressources personnelles, propres, ses capacités intellectuelles, est-ce que ça dépend du milieu social?
Non.
A priori, non.
Non.
Et sur son...
Comportement,
motivation, sur son travail. Donc ça revient à parler de quel concept ça. On mérite ce qu'on a obtenu parce qu'on a fait l'effort nécessaire, quelle que soit son origine. Et l'école doit en principe permettre ça. C'est la méritocratie. C'est pas grave. Et donc a priori, pour avoir l'équité, parfois on introduit des inégalités pour rééquilibrer les chances. Aider les plus pauvres. Par exemple, pour que tout le monde ait accès à la cantine scolaire, ben, y a des familles qui ne payent pas ou qui payent moins parce que leurs revenus ne sont pas suffisants. Alors que ceux qui ont des revenus suffisants payent le tarif plein. Ben, ça, c'est une inégalité. On pourrait s'ériger contre ça, on dirait que ce n'est pas juste. Mais c'est juste pour rétablir l'équilibre des chances dans la société. Ouais. Bon, bref. L'équité dans la compétition politique par rapport aux médias. Les médias qui, vous savez, on l'avait dit l'autre fois, qui font un peu la pluie et le beau temps. Donc, le CSA, qui veut dire quoi? En France, bien sûr. C'est marqué dans le texte.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Oui, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. D'après le CSA, quel doit être le temps d'intervention minimal de l'opposition, alors politique, là, pour que le pluralisme soit respecté? C'est dur, hein?
Un trimestre pour les JT et les temps d'information. Et un semestre pour les magazines et les autres émissions de programme.
C'est plus concis que ça quand on regarde bien les informations apportées par le document. En gros, c'est il faut un minimum de. Accorder à l'opposition un minimum de 50% du temps d'accès aux médias, de diffusion par les médias. 50% du temps accordé à la majorité présidentielle. Donc un minimum, ça peut monter jusqu'à 100%. Mais pour le CSA, l'opposition, s'il a eu 50% du temps accordé à la majorité présidentielle, hors période électorale, en temps normal, on va dire, c'est suffisant pour parler d'équité. Alors c'est pas forcément... Tout le monde ne trouve pas forcément ça juste. En tous les cas, c'est ce qui a été décrété et qui est appliqué par le CSA. D'accord ? Quel serait en pourcentage le temps de parole de l'opposition s'il était égal à celui de la majorité? Ça, c'est une question pour un sixième.
50%.
Ben non, 100%. Je veux dire, j'aurais dit 100%, bêtement. Hein. Ben c'est 100%, mais c'est pas le cas, justement. Pourquoi l'accès aux médias est-il un enjeu démocratique? Donc c'était surtout cette question qui était la plus intéressante. Pourquoi l'accès aux médias est-il un enjeu démocratique? Oui, on va peut-être changer d'intervenant. Mais ici.
Pour la compétition politique.
Oui, mais avec ça, tu réponds pas. À quoi servent les médias? Oui. La diffusion des informations, du moins ce qu'on peut appeler des informations. Souvent, c'est pas neutre. Alors, avec cette idée-là, comment construire la réponse? Pas compliqué. Pour que la population, le peuple, démocratie, le pouvoir au peuple, soit informé des différentes opinions, des différentes idées, des différents projets de société, pour pouvoir en débattre démocratiquement, il faut qu'il y ait diffusion. La diffusion, si possible, équitable par les médias. Donc les médias, ce sont eux qui permettent cette diffusion, et rapide, quasiment instantanément. Ça rentre dans tous les foyers. Ne serait-ce que regarder les débats télévisés. Tout le monde a une télé? Deux, trois. Sauf moi, effectivement. Mais il y a d'autres sources d'information. Vous avez Internet, vous avez les journaux et la radio. Hein, on peut avoir une idée d'un débat politique, des idées qui circulent, par exemple en écoutant France Info. Mais je pense que ce n'est pas votre tasse de thé. Hein. Vous, c'est plutôt Magnum Radio. Si, mais c'est normal. OK ? Donc effectivement, hein, l'accès aux médias est un enjeu démocratique. C'est cet accès qui permet aux différents partis politiques de nourrir le débat démocratique, d'informer les citoyens et de discuter les décisions prises par les gouvernements et les projets politiques qui pourraient être alternatifs à ceux pris par le gouvernement, ceux élaborés par le gouvernement. OK ? Vous avez noté ces réponses ? Un minimum ? Est-ce que franchement les questions étaient compliquées ? J'ai pas franchement l'impression. J'ai surtout l'impression qu'il y en a qui n'ont pas trop creusé le sujet. Hein? D'accord. Donc, pour terminer ce point-là, c'est suffisant. Alors, bien sûr, vous avez le droit, même presque l'obligation, de lire les documents qu'on n'a pas traités. Je vous rappelle que le livre est un outil de travail, notamment pour l'échéance de la semaine prochaine, je vous le rappelle. Vous allez faire l'exercice bilan qui est en bas de la page 25. Vous allez reproduire d'une manière correcte dans le cahier le tableau qui vous est proposé en un peu plus grand si possible pour mettre des réponses qui ne soient pas minuscules et de trouver des contre-exemples de la compétition pacifique, du pluralisme politique et d'une compétition équitable. Les contre-exemples réels, avérés, existants, ayant existé et non pas de vagues idées générales floues. Voilà. Donc déjà, pour une compétition pacifique, vous avez les exemples des coups d'État qu'on a cités. Donc ceux-là, vous pouvez les remettre. Éventuellement, on trouvait quelques autres. Il y en a eu. Moins connus, certes, mais il y en a eu, il y en a toujours. La démocratie n'est pas encore le seul modèle de fonctionnement politique de la planète. Et bien sûr, dans quelques minutes, nous allons commencer à corriger. Bon, ça y est, le tableau est correctement reproduit. Pas trop dur de faire 4 lignes et 2 colonnes. Et donc, quand vous serez prêt, nous ne traiterons pas de la première ligne, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, on a déjà évoqué suffisamment d'exemples, mais on va passer directement aux histoires du pluralisme politique. Alors, avez-vous des exemples de non-pluralisme politique ?
En URSS ?
Vraiment en URSS, c'est-à-dire avant la chute du mur de Berlin, etc. Oui. Il y avait quoi ?
C'était le communisme.
Oui. C'était le parti communiste. D'accord. Oui. Il n'y avait qu'un seul parti. Dans ce cas-là, on peut aussi citer la Chine maoïste. Hein. Pareil. Mais si on prend des exemples peut-être un peu plus récents, parce que dans l'histoire, effectivement, après avant, il y a aussi les monarques absolus. Hein. Bon, c'est le roi. La Corée du Nord, effectivement, pareil, parti communiste, enfin du moins dit communiste.
C'est ça que je voulais dire.
Plus fort,
c'est...
D'accord. C'est tout ? Oui ? Et vous pensez qu'il y a que ces grands cas bien connus, quand même, qui défraient un peu la chronique, hein, la Corée du Nord, dernièrement, fait l'objet de l'intérêt des journalistes.
Le Maroc.
Le Maroc. Il n'y a qu'un parti politique au Maroc ? Est-ce qu'il y a genre un parti politique ?
Il y a un roi.
Il y a un roi. T'as pas tout à fait tort, effectivement. C'est une monarchie constitutionnelle, mais le roi a énormément de pouvoir. Et donc l'opposition politique, si elle existe, n'arrive pas vraiment à s'exprimer. Et plus proche de nous, en ce moment, c'est la guerre civile. C'est une société qui va avoir du mal à se remettre de ce qui se passe là. La Belgique ? Oh, non, il y a un pluralisme politique en Belgique.
Syrie.
La Syrie. Il n'y avait qu'un parti qui se présentait aux élections. C'était celui... Comment il s'appelle officiellement encore le leader, le président ? Président ? Oui ? Plus fort ? Oui, mais son prénom, tant qu'à
Bachar.
Bachir el-Assad. Bachar, ça dépend. Oui, j'ai vu Bachir el-Assad, Bachir al-Assad. Voilà. Donc effectivement, le pluralisme politique n'est pas une règle universelle, apparemment. Et dans la compétition équitable, par exemple, la compétition équitable, c'est, je vous donne une piste, pour on va discuter dessus, les fraudes électorales. C'est-à-dire qu'il y en a qui trichent pour gagner. Alors, des exemples.
En Russie, oui.
Dernièrement, ça a un peu défrayé la chronique, il y a bien un pluralisme politique en Russie, du moins affiché. Mais bon, le parti fort, c'est celui de Vladimir Poutine, hein. Et donc, apparemment, l'opposition l'avait accusé d'avoir fraudé, en quelque sorte, on a fait bourrer les urnes pour mettre des bulletins de gens qui n'existent pas et qui ne devraient pas voter pour gagner, quoi. Est-ce que c'est vrai ? J'ai pas vraiment suivi l'affaire. Je sais pas si vous avez suivi. En tous les cas, ça peut être encore monnaie courante sur la planète. Oui, autre fraude électorale ?
Le Venezuela.
Le Venezuela, avec Hugo Chavez ? Il est accusé de fraude ? Mais tu penses que les pays pseudo-démocratiques, de toute façon, quand il y a un seul président, un parti fort, parfois pas unique, mais fort, c'est-à-dire que les autres partis sont quasiment inexistants, sont contraints à l'anonymat, voire à se cacher, il y a forcément fraude électorale. Tu penses ? Si, c'est probable, mais c'est pas avéré. C'est pas sûr. Et tu avais une autre idée ?
Avec Bush, aux États-Unis, il a été suspecté de fraude électorale.
Oui, c'était... Une demi-fraude électorale, c'était le système d'élection qui était très complexe, et en fin de compte, c'est la Cour suprême qui a tranché. Il y avait une suspicion de fraude électorale, mais ça n'a pas été prouvé. Parce que s'il y avait eu fraude avérée, si c'était George Bush qui avait été le fraudeur, décemment, les États-Unis n'auraient pas pu l'élire président de la République. Pas de la République, les USA, les Américains. Bon. Vous avez noté tout ça dans le tableau ? Donc effectivement, on se rend compte que la démocratie n'est pas installée partout. C'est loin d'être le cas. Et en Chine, tiens, à propos en Chine, puisqu'on a évoqué la Chine de Mao.
C'est une démocratie populaire ?
C'est marqué sur l'étiquette, effectivement. Est-ce que c'est vraiment une démocratie populaire ?
Non, c'est une dictature.
Une dictature ? Il y a combien de partis ?
Un seul.
De partis communistes chinois. D'autres partis essayent d'exister, mais c'est très très compliqué. Et les opposants politiques sont souvent, d'une manière assez arbitraire, mis en prison. Donc la Chine n'est pas encore une démocratie. Et on avait évoqué le cas de l'Inde. L'Inde, c'est bien une démocratie ? Eh bien, pour rebondir sur le sujet, pour... pas la semaine prochaine à cause du contrôle, mais après les vacances, ça vous laisse du temps, je vais demander à un binôme de nous faire un topo sur le mode électoral en Inde. La démocratie indienne qui revendique la plus grande, comme étant la plus grande démocratie du monde. Tout ça parce qu'ils ont le plus d'habitants dans un pays dit démocratique. Alors, savoir comment ça fonctionne, malgré les histoires qui subsistent encore de castes, hein, malgré ce clivage social, ce cloisonnement social, historiquement connu, mais qu'en est-il aujourd'hui? Donc qui se propose pour faire ce travail un peu plus fourni que les petits exposés que vous avez fait d'habitude et qui sera rémunéré à sa juste valeur? Et c'est bien, elle a donné son avis. C'est pas très démocratique, ça. C'est OK?
Non.
Mais
si. Vous pouvez juste répéter la question.
En quoi l'Inde est-elle la plus grande démocratie du monde? Est-ce que les élections sont bien démocratiques? Est-ce qu'il y a une compétition pacifique, un pluralisme politique et une compétition équitable, en gros, hein? Pas de questions sur ce point-là? On peut passer au point suivant. Donc, point B. Je vais l'écrire. Point B. Les partis politiques. Alors, on va se poser une question. Les partis politiques, un rôle central? C'est une question, ça ne veut pas dire que la réponse est oui. Un rôle central dans la compétition politique, bien sûr, pas un rôle central pour autre chose. D'accord? Donc déjà, à brûle pour point comme ça, vous connaissez combien de partis politiques en France? Donc prenez la parole en levant le doigt.